Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire les choses que Sarkozy détestait. Et quant à Hollande, nous allons voir. J'étais une seule personne, sans beaucoup de célébrité, sans beaucoup d'argent, et très peu étaient d'accord avec moi. Donc je ne pensais pas pouvoir réussir par un mouvement classique politique, faisant des manifestations dans les rues ou envoyant des lettres. Nous étions trop peu. Et je ne savais pas le faire parce que je n'étais pas organisateur politique. J'étais développeur de systèmes d'exploitation. Mais en tant que développeur de systèmes d'exploitation, j'avais autre chemin pour réaliser le même changement, c'est-à-dire qu'il suffisait d'écrire un système d'exploitation. Puis, en tant que son auteur, je pourrais le rendre légalement libre. Puis, tout le monde pourrait utiliser leurs ordinateurs en liberté avec mon système. Donc j'avais la possibilité de commencer l'élimination de l'injustice du logiciel privateur et offrir aux gens la possibilité de liberté par un travail technique de mon propre champ. C'est comme si tu vois quelqu'un en train de se noyer et tu sais nager et il n'y a personne d'autre et ce n'est pas Bush. Tu as le devoir de le sauver. Mais dans le vrai cas, dans ma vie, le travail à faire n'était pas nager, mais plutôt écrire beaucoup de logiciels. Et ça, je savais faire. Donc, j'ai décidé de développer un système d'exploitation complètement de logiciels libres. C'est-à-dire, sans une ligne de logiciel privateur. La liberté zéro est la liberté d'exécuter le programme comme tu veux. La liberté numéro un est la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour qu'il exécute comme tu veux, pour qu'il fasse ton informatique comme tu veux. Avec ces deux libertés, l'utilisateur individuel ou l'organisation a le contrôle seul. Mais le contrôle d'un seul utilisateur ne suffit pas. Il faut aussi le contrôle collectif de n'importe quel groupe d'utilisateurs qui veulent coopérer. Et pour le contrôle collectif, il faut aussi la liberté de diffuser des copies exactes quand tu veux, et la liberté 3, de diffuser des versions modifiées quand tu veux. Avec ces deux libertés aussi, n'importe quel groupe d'utilisateurs qui veulent coopérer peuvent avoir le contrôle de leur version. Et donc avec le logiciel libre, nous avons le contrôle individuel et le contrôle collectif en parallèle. Ce doit être évident, mais il faut le dire explicitement. Cette distinction entre un programme libre et un programme privateur n'est pas une distinction technique. Il ne s'agit pas des fonctionnalités du programme. Il ne s'agit pas de comment fonctionne le programme, ni de comment a été écrit le code du programme. Ce sont des questions techniques. Mais cette distinction est une distinction éthique, sociale et politique. Est donc plus importante et plus profonde que les questions techniques. Donc, écrire un programme libre est une contribution à la société. Un programme incorpore des connaissances. Et dans le cas d'être libre, ces connaissances sont disponibles aux utilisateurs pour les comprendre et puis pour faire la maintenance du programme, de l'adapter, de l'étendre à faire d'autres choses, et aussi pour utiliser ces connaissances dans d'autres travaux. Mais écrire un programme privateur n'est pas une contribution, parce que c'est un essai de soumettre les gens. C'est un abus. Il faut ne pas le faire. Dans les termes sociaux, le programme privateur fonctionne comme un piège. S'il a des fonctionnalités attractives, elles sont la part du piège. Leur but est d'attirer des gens à tomber dans le piège. Donc, paradoxalement, ces fonctionnalités commodes ne le rendent pas meilleur, mais plutôt plus dangereux, plus dommageux à la société. Donc, la commodité ne peut pas justifier le développement de programmes privateurs. Et si tu as le choix d'écrire un programme privateur ou ne rien faire, ton devoir est de ne rien faire. Parce que comme ça, tu ne fais pas de mal. Développer un programme privateur est faire mal à la société. Presque tous les utilisateurs de logiciels privateurs utilisent des programmes malveillants. Et ça peut paraître incroyable, donc maintenant je le démontre. Par une liste de programmes, d'exemple, un paquet privateur qui contient tous ces trois types de fonctionnalités malveillantes que tu connais peut-être de nom, s'appelle Microsoft Windows. Nous avons trouvé des fonctionnalités de surveillance qui envoient des données sur l'utilisation de la machine. Ce sont des fonctionnalités connues. Les fonctionnalités de restreindre l'utilisateur, ils ne peuvent pas cacher. Microsoft admet la présence de ces fonctionnalités. Ils s'appellent les menottes numériques ou gestion numérique de restriction, c'est-à-dire en anglais Digital Restrictions Management ou DRM. Les portes dérobées, nous en connaissons deux. Une offre à Microsoft le pouvoir d'imposer par la force, à distance, n'importe quel changement de logiciel. Il y a aussi le Kindle d'Amazon, ou le Swindle, comme je l'appelle. Swindle veut dire escroquerie. Parce que la nature de ce produit est de priver le lecteur des libertés traditionnelles des lecteurs. Par exemple, il y a la liberté d'acquérir un livre à l'anonymat, payant en liquide, peut-être. Impossible avec le Kindle, parce que Amazon exige que chaque utilisateur s'identifie. Pas manière de payer Amazon en liquide. Amazon gère donc une grande liste de tous les livres que chaque utilisateur a lu. Et l'existence même d'une telle liste menace les droits de l'homme. Il y a aussi la liberté de donner le livre à quelqu'un après de l'avoir lu, ou peut-être de prêter le livre aux gens, ou de le vendre. Impossible avec le Kindle à cause des menottes numériques, mais aussi par des contrats. Amazon dit que le lecteur n'est pas vraiment le propriétaire d'un livre, ne peut pas l'être. Il ne peut faire que avoir une licence pour le lire. Il y a aussi la liberté de garder le livre tant que tu veux. Une liberté qu'Amazon élimine par une porte dérobée. Nous ne savons pas toutes les choses desquelles cette porte dérobée est capable, mais nous savons qu'elle est capable de supprimer à distance les livres, parce que nous l'avons vu. À l'année 2009, Amazon a supprimé à distance des milliers d'exemplaires d'un livre. Des copies qui avaient été jusqu'à ce jour-là des copies autorisées que les utilisateurs avaient acquises chez Amazon dans la manière normale. Mais un jour, Amazon a envoyé des commandes pour les supprimer. C'était une leçon de la nature orwellienne de ce produit. Et le livre qu'Amazon a supprimé était 1984 de George Orwell. Un livre qu'il faut lire, mais pas dans le Kindle. Et je viens de citer les programmes privateurs les plus utilisés. Presque tous les utilisateurs de logiciels privateurs utilisent un des programmes ou paquets que je viens de citer avec des fonctionnalités malveillantes connues. C'est-à-dire que chez le logiciel privateur, le malware est le cas normal. Mais pourquoi? Parce que le développeur reconnaît son pouvoir sur les utilisateurs. Il ressent donc la tentation d'utiliser son pouvoir pour imposer les fonctionnalités malveillantes. Et il y a des utilisateurs qui n'aiment pas les fonctionnalités malveillantes, qui se plaignent, qui essayent de convaincre les développeurs de ne pas les abuser. Mais évidemment, la racine du problème est le pouvoir injuste. Les utilisateurs doivent avoir le contrôle de leur logiciel et pas une entité particulière. Chez le logiciel libre, personne ne ressent cette tentation parce que tous les contributeurs reconnaissent qu'ils n'ont pas tel pouvoir sur les utilisateurs. Les utilisateurs, s'ils n'aiment pas ce qu'un développeur a mis dans le programme, les utilisateurs peuvent voter. C'est-à-dire que le pouvoir du développeur d'un programme privateur est ce qui corrompt. Et sans pouvoir, personne n'est ainsi corrompu. Le but ultime donc du mouvement logiciel libre est la libération du cyberespace et de tous ses habitants, c'est-à-dire vous tous et tous les autres aussi. Et nous t'invitons à t'échapper du logiciel privateur et venir vivre avec nous dans le monde libre que nous avons construit. Il ne suffit pas de développer beaucoup de logiciels libres et de l'offrir aux gens. Il faut aussi éduquer les gens à valoriser leur liberté pour ne pas l'abandonner. Parce que la vie offre beaucoup d'opportunités d'abandonner la liberté. Et celui qui ne valorise pas sa liberté la perd. Les écoles doivent utiliser uniquement le logiciel libre. Pas seulement les écoles, mais plutôt toutes les activités éducatives. Parce qu'il y a aussi l'éducation des adultes. Et la formation, beaucoup de choses, beaucoup d'activités éducatives. Et toutes doivent utiliser dans l'éducation uniquement le logiciel libre. Il y a quatre raisons. La plus superficielle est pour économiser. Et c'est utile. Les écoles n'ont pas assez d'argent. Pouvoir économiser est désirable. Mais c'est une raison superficielle parce qu'il s'agit de comment faire plus et pas une question de comment faire le bien et pas le mal. Donc les autres raisons sont plus profondes et plus importantes. C'est pour ça que je cite cette raison-ci, le premier, pour démontrer que c'est la moins importante. Et aussi, il y a des développeurs du privateur qui éliminent la possibilité d'économiser en offrant des copies gratuites de leurs programmes pas libres aux écoles. Et pourquoi? Ils veulent utiliser les écoles comme des instruments pour imposer la dépendance à la société. Ils offrent des copies gratuites des programmes privateurs pour que les écoles enseignent leur utilisation aux élèves qui deviennent dépendants au programme et puis se graduent dépendants. Et suite à leur graduation, le même développeur ne leur offre pas de copies gratuites. Bien sûr que non. Et quelques-uns trouvent l'emploi dans des entreprises, le développeur ne leur offre pas de copies gratuites, pas aux entreprises. Donc le plan est que l'éducation dirige les élèves dans le chemin de la dépendance permanente et qu'ils tirent le reste de la société avec eux dans la dépendance. C'est comme donner aux écoles des ampoules gratuites de drogues addictives pour les injecter aux élèves pour les rendre dépendants. La première dose est gratuite. L'école rejetterait les drogues, gratuites ou pas, et doit rejeter les programmes privateurs, gratuits ou pas, parce que l'école a une mission sociale d'éduquer des bons citoyens d'une société capable, forte, indépendante, solidaire et libre. Pour l'éducation dans l'informatique, il y a quelques-uns qui sont des programmeurs nés, qui ont un grand talent pour la programmation. Et à l'âge de 10 ans à 13 ans d'habitude, ils ont envie d'apprendre tout sur l'informatique. S'ils utilisent un programme, ils veulent savoir comment est-ce qu'il fait ça. Mais quand ils posent cette question au professeur, si le programme est privateur, il ne peut répondre que nous ne pouvons pas le savoir, c'est un secret. Et c'est-à-dire que l'éducation ne peut pas se faire.